Vous écoutez, on lit pour vous.
Non, les enseignants ne sont pas sans filet en classe. Un texte de Louise Leduc, paru le 17 juillet 2023 dans la presse. Les enseignants, qui peuvent être visés par des plaintes de parents ou filmés à tout moment en classe, peuvent-ils encore parler d'enjeux de société? C'est leur devoir de le faire, selon le professeur Bruce Maxwell, éthicien et spécialiste du droit de l'éducation, dont l'expertise a été sollicitée par une dizaine d'écoles privées, des cégeps et des organismes professionnels depuis 2021. Ce qu'il transmet aux directions d'école et aux enseignants, c'est un outil pour prendre des décisions responsables quant au choix du contenu, qui peut être délicat, explique-t-il en entrevue. Le danger à l'heure actuelle, c'est que les enseignants aient peur d'aborder certaines questions avec les élèves et que cela prive les jeunes d'un aspect essentiel de leur éducation. Apprendre à discuter de controverses politiques et sociales fait partie du développement de la pensée critique des élèves, rappelle M. Maxwell, qui est professeur agrégé à l'Université de Montréal et chercheur à la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de liberté d'expression. La première chose dont doivent être conscients les enseignants, poursuit-il, c'est que la classe est un lieu public et que les enseignants doivent se comporter en conséquence en tout temps. Certains enseignants l'ont appris à leurs dépens. Il y a eu le cas en 2020 de cet enseignant d'une école de Montréal-Nord qui a été congédié après avoir tenu pendant des années des propos racistes pour lesquels il a fini par présenter ses excuses. Plus récemment, les hurlements en classe d'une enseignante de première année ont beaucoup fait réagir. Mais tout le débat a été lancé dans un tout autre registre par la suspension en 2020 d'une professeure de l'Université d'Ottawa parce qu'elle avait utilisé le mot commençant par « N » dans son cours que les médias eux-mêmes n'écrivent plus. Quatre principes. Cela ne signifie pas pour autant que les enseignants et professeurs ne peuvent plus rien dire. En s'appuyant sur la jurisprudence canadienne et américaine, M. Maxwell et ses collègues ont établi quatre principes qui balisent, à leur avis, la liberté d'expression en classe. Le premier, adopter des propos ou du matériel en lien direct avec le programme d'enseignement. Ainsi, explique M. Maxwell, la latitude dont dispose un enseignant de mathématiques embauché pour enseigner l'algèbre n'est pas la même que celle d'un enseignant en éthique et culture religieuse ou en histoire. Autre principe phare, enseigner de façon impartiale. Une classe n'est pas un cadre propice pour marteler sa haine des souverainistes ou des fédéralistes, illustre M. Maxwell. En troisième lieu, poursuit-il, il faut éviter les propos incendiaires raisonnablement prévisibles. Ici, insiste-t-il, il est important de distinguer les propos controversés des propos incendiaires. L'enseignement des sujets controversés requiert non seulement un certain tact pédagogique, mais aussi une connaissance intime du milieu. Un jugement de la Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard apporte ici un éclairage encore aujourd'hui, même s'il date de 2002. À l'époque, un enseignant qui travaillait dans un milieu rural plutôt fervent avait invité ses élèves à réfléchir sur le lien entre leurs croyances politiques et religieuses. La direction de l'école a reçu des plaintes. L'affaire a fini en cour. L'enseignant a eu gain de cause parce que le programme de l'Île-du-Prince-Édouard contenait noir sur blanc l'obligation qu'ont les enseignants de faire la promotion de la pensée critique chez leurs élèves. L'enseignant a réussi à montrer à la cour que telle était son intention. promouvoir la pensée critique des élèves. C'est large, non? En fait, répond M. Maxwell, le critère principal qui guide les tribunaux dans ces affaires, c'est la raisonnabilité de l'intervention. Le but de l'activité ou de la discussion en classe était-il de faire la promotion de la pensée critique chez les élèves, ou plutôt de dénigrer leurs croyances ou faire la promotion de son point de vue personnel? Le quatrième principe que les enseignants doivent avoir en tête, avoir recours à du contenu adapté à l'âge des élèves. Montrer un film de Harry Potter dans un cours sur le genre fantastique au secondaire, ça va. Montrer les films qui contiennent plusieurs scènes effrayantes à des élèves de maternelle, pas judicieux. De la même façon, l'enseignant de Montréal, qui a eu la mauvaise idée de diffuser la vidéo de 11 minutes du meurtre de Lin Jun à des élèves de quatrième secondaire dans son cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté, vidéo qui montrait les mutilations et le démembrement de la victime, a beaucoup, beaucoup erré. La classe avait unanimement voté pour voir la vidéo, mais ce n'est pas une raison, à l'évidence. C'est un cas flagrant de mauvais jugement pédagogique, dit M. Maxwell, soulignant que l'enseignant n'a pas tenu compte des perturbations que cela pouvait entraîner, après coup, chez les jeunes et dans le milieu scolaire. Pas d'immunité. Il reste que, même en estimant respecter parfaitement ces critères, les enseignants demeurent exposés. En plus de craindre les mesures disciplinaires, ils se savent à risque d'être filmés et livrés en pâture sur les réseaux sociaux, hors contexte ou pas, qu'ils aient manqué de jugement ou pas. En effet, répond M. Maxwell, les principes énoncés n'immunisent pas les enseignants contre les plaintes de parents. Mais en suivant les principes énoncés plus haut, les enseignants ont une certaine protection quand leurs enseignements s'arriment à la jurisprudence. Et même si les choses vont vite dans une école et qu'on manque souvent de temps, l'idéal, avant d'aborder une question délicate ou de suggérer un film ou une lecture qui pourrait faire des vagues, c'est d'en parler à sa direction, conclut M. Maxwell. Parce qu'ensuite, si des plaintes surgissent, la direction pourra mieux défendre ses choix et dire qu'ils ont été faits de façon réfléchie. C'était « Non, les enseignants ne sont pas sans filet en classe », un texte de Louise Leduc paru le 17 juillet 2023 dans la presse.
Qu'est-ce qui arriverait à un homme qui se retrouverait dans l'espace sans aucune combinaison spatiale, comme ça arrive dans plein de films de science-fiction? Un texte paru le 5 novembre 2014 dans le magazine Québec Science. Ce qu'on nous montre dans les films n'a pas toujours grand-chose à voir avec la réalité. As-tu vu Total Recall? Lorsque le casque de l'astronaute se brise, sa tête explose littéralement. Dans les faits, la pression qui règne à l'intérieur du corps d'un astronaute n'est pas suffisante pour le faire éclater, même si la pression est nulle à l'extérieur. Par contre, si tu pêchais un poisson dans le fin fond de l'océan et que tu le remontais rapidement à la surface, la différence de pression serait suffisante pour le faire exploser. À défaut d'exploser, il se passerait quand même des choses pas très agréables dans le corps de ce pauvre astronaute dépourvu de combinaison. À cause de l'absence de pression dans le vide interstellaire, son sang et ses autres fluides corporels se mettraient à bouillir. Puis, il perdrait tellement de chaleur qu'il se congèlerait avant d'avoir eu le temps de s'évaporer complètement. Tout ça en une minute maximum. Il manque aussi un ingrédient essentiel à notre survie dans l'espace, l'oxygène. Privé de ce précieux gaz, le cerveau d'un astronaute lui ferait perdre conscience en très peu de temps. Quoi d'autre? Si l'astronaute a la malchance de se retrouver en plein soleil sans atmosphère pour filtrer ses rayons les plus nocifs, il attrapera en quelques secondes le pire coup de soleil de sa vie. Mais à ce moment-là, de toute façon, sa vie sera déjà finie. C'était « Qu'est-ce qui arriverait à un homme qui se retrouverait dans l'espace sans aucune combinaison spatiale comme ça arrive dans plein de films de science-fiction ?» Un texte paru le 5 novembre 2014 dans le magazine Québec Science.
En quoi l'expérience Lula au Brésil peut-elle être utile à la lutte démocratique en Haïti? Pensez 7 jours l'expérience Lula au Brésil. Extrait 3 de 7. Un texte de Leslie J.R. Péan paru en 2023 dans Alter Press. La troisième victoire de Lula restera gravée dans les mémoires. Le peuple brésilien s'est souvenu des programmes du Parti des travailleurs, PT, tels que Fome Zero, Faim Zero et Bolsa Familia, panier alimentaire, réalisant cette révolution silencieuse qui a sorti 24 millions de personnes de la pauvreté et permis à 31 millions d'autres d'accéder à la classe moyenne. Comme l'exprime Alvaro Garcia Linera, ex-vice-président du gouvernement progressiste d'Evo Morales en Bolivie, citation, « La victoire de Lula est une affirmation de la démocratie et de la dignité des gens humbles. » Fin de citation. La troisième victoire de Lula est d'autant plus significative qu'elle permet de déjouer les attaques systématiques du statu quo contre les progressistes d'origine populaire. C'est la consécration de son formidable esprit d'initiative, reconnu lors des grandes grèves des travailleurs de l'industrie automobile de 1978, qui marche au cri de « Olé Lula ». Alors, tout l'ABC, São Andrés, São Bernardo, São Caetano, la périphérie industrielle de São Paulo, le cœur du miracle brésilien, s'en trouve ébranlé. Les ouvriers brésiliens de partout se retrouvent dans ces discours qui expriment leurs propres conditions d'existence. Pas besoin d'aller loin pour trouver Aristippe dans son narratif qui provient d'une pensée individuelle en accord avec une pensée collective. Au lieu de gagner 20 % d'augmentation de salaire, les ouvriers obtinrent 11 %. La grève des métallos dure 41 jours et consolide l'Alliance des travailleurs, des intellectuels marxistes non dogmatiques et des théologiens de la libération. Cette grande alliance de 20 tendances a abouti à la création du Parti des travailleurs, PT, le 10 février 1980, avec les représentants de 17 des 27 États du Brésil. Deux mois plus tard, Lula est arrêté par la junte militaire le 19 avril 1980 et gardé 31 jours en prison. En 1982, avec le syndicalisme comme marque de fabrique, Lula se porte candidat au poste de gouverneur de l'État de São Paulo et perd aux élections, mais il persiste et gagne en 1986 un siège de député national. On le retrouve candidat à la présidence aux élections de 1989, mais il perd. Le même sort lui est réservé aux élections présidentielles de 1994 et 1998. Dans ces deux cas, son adversaire Fernando Henrique Cardoso emporte la mise. Mais, en se relevant après chaque revers, il monte à l'assaut et lance une contre-offensive qui le conduit à gagner l'élection présidentielle de 2002. Mais les militaires continuent de garder leur emprise en revendiquant l'impunité et en imposant une amnistie générale pour leurs crimes. Au cours des deux décennies de leur dictature, ils ont emprisonné, tué et expulsé autant des ouvriers combatifs, des artistes de renom de la trempe de Caetano Veloso, Gilberto Gil, que des sommités intellectuelles telles que Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Milton Santos, Paulo Freire, ce dernier connu pour son ouvrage « La pédagogie des opprimés », traduit en plus de 20 langues. Lula opte pour le bulletin de vote. Lula a appris des luttes syndicales contre le statu quo des patrons, mais aussi des luttes intrasyndicales pour la direction du mouvement syndical. La Centrale unique des travailleurs, CUT, créée en 1983 par Lula des courants socialistes et des théologiens de la libération, tout en ayant 2000 syndicats associés, ne représente qu'une partie des travailleurs. La CUT est en compétition avec Força Syndical, FS, créée en 1991. De plus, la CUT connaît au moins 4 scissions, commençant en 2004 avec la Centrale syndicale et populaire Coordination nationale des luttes, CSP Con Lutas, puis en 2005 avec la Centrale générale des travailleurs du Brésil, CGTB, et deux en 2017 avec l'Union générale des travailleurs, UGT, et la Centrale des travailleurs et des travailleuses du Brésil, CTB. Les grèves sont inédites dans les annales des luttes des travailleurs. Par exemple, citation, « L'année 1989 est celle du record des grèves dans les annales de la pratique et de la mémoire des travailleurs. Les statistiques parlent de 4000 grèves, de plus de 20 millions de grévistes et de 250 millions de journées de travail perdues. » La personnalité de Lula s'est forgée dans ses luttes syndicales qui ont donné sens aux alliances politiques expliquant ses victoires successives en 2002, 2006 et 2022. Alliances sans marronnage dans lesquelles toutes les parties impliquées sont bénéficiaires. Dans une société contrôlée par la richesse de la minorité des 1% de la population possédant 47% du produit intérieur brut, PIB, Lula parvient à démontrer que les gens sortis des milieux humbles peuvent diriger et engager la société entière dans la voie de la modernité. C'était une indéniable performance, car le courant politique pacifiste était d'autant plus difficile à organiser du fait que, depuis le coup d'État militaire de 1964, une dizaine de mouvements de guérilla urbaine et rurale ont fait surface. Même au sein de l'armée, avec la guérilla du capitaine Carlos Lamarca pour combattre la dictature. Ayant déterminé le poids des ambassadeurs des pays tels que les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, le Japon, certains s'en prendront directement aux missions diplomatiques. Une des militantes de ces groupes révolutionnaires armés est Dilma Rousseff, du Comando de Libertação Nacional, Colina, à qui Lula passe la main et qui est élue présidente du Brésil de 2010 à 2016. Entre 20 et 45 ans, à l'âge de toutes les folies, Lula résiste à la lutte armée et préfère se consacrer aux luttes syndicales et politiques proprement dites. Ses rapports avec les théologiens de la libération, tels que les évêques Elder Camara de Recife et Angelico Sandalo Bernardino de São Paulo, les prêtres Fray Beto et Fray João, pour ne citer que ceux-là, y ont largement contribué. Au Brésil, particulièrement sous les gouvernements militaires de 1964 à 1985, les scandales n'ont pas manqué. Lula a bien compris le décor de la contradiction principale des militaires menaçant d'avaler le corps social et a constitué une coalition permettant de passer des 30% des résultats pour le Parti des travailleurs, PT, à 50,9% aux dernières élections de 2022. Une régression quand même par rapport au pourcentage obtenu lors des élections de 2002 avec 61,3% des suffrages, puis de 2006, 60,8%, de 2010, 56%, de 2014, 51,64%. Cette perte de voix laisse percer le recul du PT dans une population pourtant bénéficiaire de sa politique. Les affects de la peur du changement chez les nouvelles classes moyennes auraient-ils fabriqué un consensus contre ceux de l'espoir? Électrices et électeurs sont-ils affectés par un désenchantement et un manque de passion? Les faits sont là. Le raz-de-marée de 2002, quand Lula avait gagné dans tous les 27 États, ne se reproduit plus. Vous écoutez, en quoi l'expérience Lula au Brésil peut-elle être utile à la lutte démocratique en Haïti? Pensez 7 jours l'expérience Lula au Brésil, extrait 3-7, un texte de Leslie J.R. Péan, paru en juin 2023 dans Alter Press. La goutte d'eau de trop dans le vase des classes moyennes. L'expérience de la fin du second esclavage brésilien a eu lieu sous le gouvernement du PT le 2 avril 2013. Pour donner suite à l'adoption d'une convention sur le travail domestique de l'Organisation internationale du travail, OIT, en 2011, le gouvernement du PT, comme avocat prestigieux, défendait les 68 millions de victimes devant le jury populaire. En jeu, le vote de la proposition d'amendement constitutionnel PEC 66/2012. Verdict sans appel. Les droits de l'employé de maison étaient intégrés dans l'article 7 de la Constitution. La loi détaille tous les droits de l'employé domestique. Paiement d'un salaire qui ne doit être jamais inférieur au salaire minimum, détermination de la durée normale du travail, qui ne peut excéder 8 heures par jour et 44 heures par semaine. Le PEC stipule que la compensation des heures et la réduction des heures de travail sont autorisées au moyen d'un accord écrit entre les parties, travailleurs domestiques, noirs et indigènes, qui étaient en première ligne à la cérémonie d'investiture de Lula. Ce renforcement du capital symbolique de ces groupes sociaux est impardonnable pour cette faction raciste de la bourgeoisie blanche et métisse brésilienne qui bataille avec ses propres traits physiques résultant des intenses relations sexuelles entre maîtres et esclaves. Le Brésil a été le dernier pays à abolir officiellement l'esclavage des Noirs en 1988. Désormais, les travailleurs domestiques ont droit à une rémunération des heures supplémentaires d'au moins 50 % à l'introduction de normes de santé, d'hygiène et de sécurité, l'interdiction des différences de salaire, d'exercice des fonctions et des critères d'admission des employés en fonction du sexe, de l'âge, de la couleur ou de l'état matrimonial, prohibition de toute discrimination envers les personnes handicapées. L'équivalent de 8 % du salaire mensuel sera également versé à un fonds en cas de licenciement, de décès ou autre coup du sort. En plus, le PEC consolide ses avancées par le décret de 2008 interdisant toutes les formes de ce genre de travail aux mineurs de moins de 18 ans et aux enfants. Un décret en 2015 statue sur les limites des heures de travail dans le cas de ceux et celles vivant sur le lieu de travail et la protection contre le licenciement sans cause après avoir passé une vie entière à travailler pour une même famille. Malgré les nombreuses polémiques générées pour son approbation, le PEC a été approuvé. Le Brésil compte le plus grand nombre de travailleurs domestiques au monde, plus de 6 millions pour 200 millions d'habitants, dont une majorité en 2011 évaluée à 61 % de femmes noires. Une augmentation de 4 % par rapport à 2004 quand elle représentait 56,9 %. Le débat a préoccupé toute la société. Les représentants des classes moyennes ont été les plus rébarbatifs et ont déclaré que le droit du travail ne saurait s'appliquer dans un foyer qui n'est pas une entreprise. Mais le gouvernement des travailleurs a finalement eu raison des passions déchaînées. Coïncidence, 2 mois plus tard, des grandes manifestations contre le gouvernement de Dilma, dont une de plus de 1 million de personnes, agitent toutes les grandes villes. Comment expliquer cette levée de boucliers? Est-elle vraiment spontanée quand on considère son expansion dans une dizaine de grandes villes? Les motifs affichés sont nombreux. Augmentation de 20 centimes du transport urbain, brutalité policière, corruption, etc. Mais bizarrement, la loi sur le travail domestique n'y figure pas. Ne faudrait-il pas l'ajouter au menu du grand débat que la société brésilienne a connu alors? La question se pose avec insistance. Le financement des campagnes électorales des candidats au Brésil. En accord avec la loi de 1993 exigeant aux candidats de présenter au Tribunal supérieur électoral, TSE, la liste de leurs financiers, en 1994, le PT a mené une campagne électorale avec moins de 2 millions de dollars américains, tandis que son adversaire principal, le PSDB, qui a recueilli 54,3 % des votes, a gagné avec des contributions excédant 41 millions de dollars américains. En revanche, Lula a eu la seconde place et devancé Orestes Quercia, ex-gouverneur de l'État de São Paulo, candidat du PMDB qui avait dépensé 27 millions. On constate le même rapport aux élections de 1998 quand Cardoso a dépensé 37 millions tandis que Lula a gagné la seconde place en ne dépensant que moins de 2 millions. Son compétiteur, Ciro Gomes du Parti populaire, PPS, gagne la troisième place en dépensant moins de 900 000. Lula et le PT ont utilisé leur réputation au lieu de l'argent pour se positionner dans la lutte politique. On notera qu'entre les élections de 2002 et 2018, face aux 7 partis et coalitions de partis adversaires, le PT a été le second parti à dépenser le moins pour élire des candidats. Lula combine avec maestria raison et émotion pour gagner la confiance des secteurs conservateurs de la finance. Le 22 juin 2002, il lit à la télévision sa fameuse « Lettre au peuple brésilien », un jour après la victoire du Brésil sur l'Angleterre en quart de finale. Lula gagne ses premières élections présidentielles de 2002 grâce à 3 mois de campagne assidue au cours desquels il a dépensé le financement reçu de ses partisans, mais aussi au cours desquels il s'est personnellement dépensé ainsi que ses collaborateurs. Les esprits étaient préparés à accueillir cet enfant du Nord-Est. La Samba Enredo, thème de la samba, de l'école de samba Mangueira, qui a obtenu le premier prix du carnaval de février 2002, était au rendez-vous. Avec son message subliminal, la chanson « Brasil comme c'está e pra cabra da peste, Brasil comme c'está e a Nassau do Nordeste », le Brésil avec Z et celui qui survit malgré les adversités, le Brésil avec S et la nation du Nord-Est, était dans les airs reprises par la chanteuse populaire Alcione. Le terrain était prêt pour les promoteurs en marketing de continuer ce climat d'allégresse en avançant avec la candidature de Lula le 7 mai 2002 pour participer aux élections d'octobre. L'euphorie continua avec les victoires aux différents matchs de la Seleção et les prouesses de ses attaquants, les 3 R, Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo, en juin 2002. Entouré d'experts en « real politics », Lula orchestre une véritable montée en puissance. En quelques mois de campagne, il visite 93 villes, organise 103 rassemblements, forme 63 cortèges automobiles, passe un total de 147 heures dans des avions et parcourt 61 127 km à travers le pays. Un vrai marathon au cours duquel il rencontre économistes et banquiers. Gabriel Jorge Ferreira, banquier de 77 ans, président de la Fédération brésilienne des banques, dira, citation, « La présentation de Lula et ses réponses nous ont agréablement surpris. » Fin de citation. À suivre. C'était « En quoi l'expérience Lula au Brésil peut-elle être utile à la lutte démocratique en Haïti? » Pensez 7 jours l'expérience Lula au Brésil, extrait 3 de 7, un texte de Leslie J.R. Péan, paru en juin 2023 dans Alter Presse.